Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h46, Elisabeth Martichoux recevait ce matin le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault.
Bienvenue Jean-Marc Ayrault, bonjour à vous.
Bonjour.
C'était l'image du jour hier, elle nous a évidemment beaucoup frappé. Un petit sourire aux lèvres, Bachar el-Assad qui revendique sur une vidéo sans doute prise au portable la libération d'Alep. Les Syriens écrivent l'histoire, disait-il. C'est quoi? C'est la victoire surtout du cynisme absolu?
Oui, c'est ça, surtout quand on voit la tragédie, les morts. 300 000 morts au moins. 10 millions de personnes déplacées, la moitié de réfugiés dans les pays voisins, en Europe. Un pays détruit, hein, et qui aura du mal à se reconstruire, à se réconcilier. C'est ça la réalité. Et celui qui a eu le mot le plus fort hier, c'est Britta Adjeh Hassan, qui est le maire, enfin le président du conseil civil d'Alep, hein, que j'ai rencontré au moins 4 fois et reçu 4 fois à Paris encore samedi dernier, et qui a dit « l'histoire se souviendra de cette page noire ».
Et cette provocation de Bachar el-Assad, elle vous inspire quoi?
Je pense qu'il faut vraiment se demander et tout faire. Qu'est-ce qui va se passer après Alep? Est-ce que la guerre continue? Est-ce que la guerre totale, la stratégie de guerre totale qui est en cours à Alep, va se poursuivre?
Vous voulez dire, est-ce que Bachar va continuer à reconquérir
Mais Bachar el-Assad,
en Syrie avec l'aide des Russes?
Bachar el-Assad seul ne peut pas reconquérir. Là, vous avez un symbole qui est Palmyre, qui a été reconquise sur Daesh. Et lorsque les Russes qui ont permis cette reconquête et qui ont fait d'ailleurs un acte de propagande en organisant un concert, vous voyez, ça y est, c'est la paix, on a vaincu Daesh, ils ont redéployé leurs forces pour soutenir Bachar el-Assad à Alep, bombardé. Permettant, et donc, ils ont permis à Daesh de reprendre Palmyre. C'est tout un symbole, c'est-à-dire qu'il y avait là les soldats d'Assad qui étaient restés et qui n'ont pas pu se défendre parce qu'ils sont faibles. Donc si la Russie, si l'Iran, si les ministres du Hezbollah et qui ont été très présentes à Alep n'avaient pas été là, Bachar n'aurait jamais pu faire tomber Alep. Donc je crois que la responsabilité maintenant, c'est pourquoi nous parlons avec les Russes et nous le redisons sans cesse, est-ce que vous allez poursuivre cette guerre totale? Est-ce que vous allez aller à l'ouest d'Alep maintenant, à Idlib notamment, où il y a de la résistance?
Et qu'est-ce que vous pensez des intentions des Russes sur le reste du territoire?
Nous avons une option. D'abord, je crois qu'il faut commencer par là.
Est-ce que vous connaissez les intentions de Poutine? Est-ce que vous vous posez la question, est-ce que les Russes vont continuer d'aider Bachar à reconquérir
la question, d'autres
territoires?
Effectivement, c'est celle que c'est ce que nous lui disons sans cesse. C'est ce que je dis sans cesse à mon collègue des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, que j'ai vu encore la semaine dernière à Hambourg. C'est le ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que vous allez faire après Alep? Même si nous condamnons ce que vous avez fait, bien entendu, et que nous l'avons combattu, est-ce que vous allez poursuivre cette guerre totale? Parce qu'il ne faut pas vous faire d'illusions. Vous allez rester là-bas longtemps tout seul.
Et qu'est-ce qu'il vous dit?
Et vous allez finir comme en Afghanistan. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Et donner la place à l'Iran qui deviendra en quelque sorte le maître de cette région du Moyen-Orient. Est-ce que c'est ça que vous voulez?
Est-ce qu'il vous donne une réponse?
Moi, j'ai comme réponse, nous sommes pour la négociation. Alors, je demande des actes. Là, il y a la priorité qui est l'aide humanitaire. C'est pourquoi nous avons à nouveau demandé une réunion du Conseil de sécurité.
Qui va se réunir aujourd'hui.
Et se réunir à la demande de la
France. Vous espérez que cette fois, Moscou ne mette pas son veto?
Écoutez, Moscou ne peut pas s'empêcher ce que nous proposons de concret. Qu'est-ce que nous proposons de concret? C'est des observateurs des Nations Unies, c'est-à-dire mobiliser tout le personnel qui est déjà sur place pour surveiller la sortie d'Alep de la population civile. Il faut la protéger, la sauver. Sinon, il risque d'y avoir des règlements.
Il y a à peu près,
selon Staffan de Mistura, que j'ai rencontré hier soir, environ 50 000 personnes civiles qui sont encore à Alep, sous les décombres. Et puis, il y a quelques milliers de combattants et leurs familles, et qui doivent aussi sortir. Et donc, la protection des observateurs, c'est d'éviter les massacres, d'éviter les règlements de compte, parce que c'est une guerre qui a provoqué une telle haine que c'est possible. Ouais. On a même évoqué la comparaison avec Srebrenica, en Bosnie-Herzégovine.
Mais hier, les Russes...
Il y a cette aide humanitaire.
Les Russes s'étaient engagés à aider les rebelles.
C'est pourquoi je ne peux pas imaginer un instant qu'au moment où la population civile veut sortir, qu'on les empêche d'être protégés, qu'on empêche l'aide humanitaire de la Croix-Rouge, de l'UNICEF d'arriver. Donc c'est ce que nous avons mis à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Et c'est la première urgence. La deuxième urgence, c'est de relancer le processus de paix à Genève, parce qu'il y a une base juridique qui a été arrêté par le Conseil de sécurité le 18 décembre 2015, il y a juste un an. Et cette base devait la résolution 2254 qui dit qu'il faut se mettre autour
de
la table.
Qui autour de la
table? Les représentants du régime et les représentants de l'opposition, sous le contrôle de la communauté internationale, du Conseil de sécurité, des membres permanents.
Vous êtes d'accord pour discuter avec les représentants du régime de Bachar el-Assad?
Mais ça touche, c'est la résolution 2254 du Conseil de sécurité d'il y a un an qui dit il faut un processus de paix et arrêter la guerre. Donc c'est ce que nous demandons.
Donc au nom de la paix, quand François Fillon hier est sorti de son silence en disant il faut absolument qu'on mette autour de la table tous les protagonistes, y compris ceux qui commettent des crimes, c'est-à-dire Bachar et Poutine, ou leurs représentants,
Fillon, vous êtes d'accord? Monsieur Fillon découvre la réalité du dossier ou quoi? Je ne comprends pas ce qu'il dit. Qu'est-ce que nous avons dit depuis le début? Arrêtons la guerre et commençons la négociation. Il y a un représentant de l'ONU qui est en permanence à Genève. Nous-mêmes, nous avons un ambassadeur qui s'occupe que de cette question, qui travaille avec tout, qui contacte tout le monde. Donc, il s'agit de mettre autour de la table les représentants du régime pour une transition politique. C'est ce que dit la résolution.
Vous avez des contacts, vous, Paris, le Quai d'Orsay, vous, avec les représentants du régime de Bachar el-Assad?
Ce n'est pas nous qui avons les contacts. C'est le représentant des Nations Unies qui a les contacts. Moi, j'ai les contacts avec l'opposition.
Mais vous dites qu'il faut se résoudre à négocier avec Assad ou ses représentants au nom de la paix.
Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous connaissez l'histoire. Quand on veut faire la paix et qu'on veut négocier, on négocie avec les belligérants. Sinon, il n'y a pas de négociation.
C'est nouveau, ça, Jean-Marc?
Non, ce n'est pas nouveau.
C'est un nouveau discours.
Ce n'est pas nouveau. Ce qu'il faut, c'est sortir de la logique de la guerre totale. Mais simplement, je vais vous donner une précision pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Si vous imaginez qu'à la fin de ce processus de négociation et de transition, c'est Bachar el-Assad qui va continuer à diriger la Syrie, alors là, il vous faites fausse route. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui a la responsabilité de crime devra rendre des comptes. Donc il faut trouver la bonne méthode, mais en tout cas, ce n'est pas la méthode de la guerre totale. C'est pourquoi il faut qu'elle s'arrête, parce qu'elle fera encore plus de morts. Elle provoquera encore plus de haine, d'envie de revanche, l'envie de vengeance. Et ça ne peut qu'embraser pendant des années cette région.
Donc c'est un discours qui sonne comme nouveau à nos oreilles, c'est-à-dire on accepte de négocier avec les proches de Bachar el-Assad au nom
avec
de la paix qui aujourd'hui
du
avec
régime
le représentant
en place
du régime
et
après
une transition. Pour une l'objectif c'est quoi? C'est d'arriver à mettre en place des institutions qui permettent d'associer la totalité de la société de la Syrie, parce que je crois qu'en Syrie aujourd'hui c'est une minorité, une dictature, mais c'est une minorité qui dirige un pays majoritairement sunnite avec une minorité chiite, donc ça ne peut pas faire la paix. Il faut une réconciliation, mais il faut aussi que toutes les communautés soient protégées. Donc il faut des institutions qui le permettent. La résolution dit aussi Syrie non confessionnelle. Et ça, c'est aussi le modèle.
Pour éviter la partition. À quelle échéance cette réunion, Jean-Marc Ayrault ?
Mais le représentant des Nations Unies que j'ai vu hier soir est prêt dès demain matin, dès la semaine prochaine, dans les prochains jours. Parce qu'il y a urgence.
Maintenant,
il y a urgence à faire la paix. Simplement, je voudrais dire une chose à propos de François Fillon, parce que vous l'avez cité. Il y a une phrase qui m'a vraiment choqué, c'est quand il dit « l'indignation est nécessaire, mais n'a jamais sauvé une vie. Je suis désolé, c'est l'indifférence qui tue. » Heureusement qu'il y a de l'indignation dans l'histoire. Il y en a eu plein d'indignation. Il y a parfois des hommes seuls qui se sont indignés, qui se sont révoltés, et s'ils ne l'avaient pas fait, alors nous en saurions, nous. Je ne comprends pas François Fillon. Il se fait beaucoup de mal.
Il se fait beaucoup
de
mal,
Oui, parce qu'il montre un certain cynisme, je dirais un cynisme glacial, alors qu'aujourd'hui, il faut un petit peu de générosité.
Et vous, vous parlez d'indignation face à ce drame en tant que citoyen, vous vous sentez coupable ?
Pas du tout. La France est présente en permanence, à chaque fois, et parfois nous avons été seuls. Réunion du Conseil de sécurité, à chaque fois c'est la France qui prend l'initiative. Samedi encore à Paris, le président de la République qui reçoit, qui prend l'initiative, qui s'exprime aussi. Alors, heureusement que la France est encore présente. Elle n'a jamais renoncé, elles ne renonceront jamais.
Quand on sauver dit que des la vies, France dans cette affaire est un nain diplomatique, qu'elle ne compte pas et qu'à Genève par exemple elle n'existe
membre
pas.
Membre permanent du Conseil de sécurité, nous sommes 5 et nous ne sommes jamais tus, nous avons toujours travailler dans la même direction et nous allons continuer. Vous pouvez compter sur la France.
Encore deux petites questions. D'abord, décidément, un climat de nouvelle guerre froide entre Washington et Moscou. La Maison-Blanche annonce qu'elle va riposter aux cyberattaques qu'elle accuse, dont elle estime que Moscou est à l'origine. D'abord, vous comprenez cette offensive d'Obama ?
Bien sûr, c'est une ingérence. Si ça a eu lieu, et ça, c'est les Américains qui peuvent le prouver par leur enquête, il faudra demander des explications. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de nouvelles menaces maintenant. Et ce sont les cyberattaques. C'est pourquoi il faut se protéger, s'organiser. L'Europe vient décider d'une stratégie de défense hier. C'était très important. Nous avons beaucoup travaillé, parmi lesquels il y a cette protection. Et c'est l'Europe qui doit nous donner davantage de capacités, parce que nous aussi, nous sommes menacés. Vous pouvez être menacé par un État, vous pouvez être menacé par des groupes terroristes, des groupes financiers qui veulent déstabiliser les démocraties.
Un petit mot maintenant de la situation des Français. Cadeau de Noël du gouvernement, les baisses d'impôts prévues dans le budget 2017 seront appliquées dès janvier pour 5 millions de Français et pas en août. Franchement, Jean-Marc Ayrault, en quelques mots, s'il n'y avait pas eu la présidentielle en 2017, il n'y aurait pas eu changement de calendrier.
Bon, écoutez, il faut être assez réaliste. Si c'est une bonne nouvelle pour les Français qui seront bénéficiaires, tant mieux.
Mais c'est un cadeau électoraliste, d'accord.
On peut toujours dire ça. À chaque fois qu'on prend une bonne mesure, c'est électoraliste. Quand elles ne sont pas bonnes, vous dites que c'est une erreur.
Alors pour une fois, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle.
Non, si ça s'est déjà produit, tant mieux. Tant mieux pour les Français.
Ça ne s'est jamais produit.
Mais ne vous en plaignez pas. C'est peut-être parce que vous n'allez pas en bénéficier.
Vous voterez à la primaire le 22 et 29 janvier. Vous avez déjà eu l'occasion de dire que vous ne diriez pas, ne donneriez pas une consigne de vote. Mais vous direz pour qui, vous, personnellement, vous votez ?
Non, je ne donnerai pas de consigne ni d'indication.
Pourquoi pas Manuel Valls ?
Écoutez, quand vous regardez, je m'amuse un peu de cette situation. 5 candidats à la primaire sont des anciens ministres de mon gouvernement. Alors, je ne vais quand même pas me laisser aller à dire un tel, je ne dois pas distribuer les bons et mauvais points. Par contre, il y a une chose à laquelle je ne me résigne pas, c'est qu'au deuxième tour de la présidentielle, les Français soient amenés à choisir entre François Fillon et Marine Le Pen. Moi,
c'est
je
dit.
Veux que la gauche soit présente.
Merci.
Alors, il faudra tout faire, il y a encore du travail.
Merci Jean-Marc Ayrault. Bonne journée à vous.
Ce sera d'ailleurs l'objet de notre débat à 8h20 autour d'Alain Duhamel et d'Éric Zemmour.